Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, la plume est à vous. Michel Philippot, en votre compagnie, en ce dimanche soir, avec, pour commencer cette émission, un très joli texte de Patricia Guillemin, « À l'heure du thé ». Patricia Guillemin est auteure, on lui doit entre autres « L'Okirek, l'effet presqu'île » ou encore « L'encre des apparences », deux ouvrages en duo avec Michel Prisiac. Ajoutons aussi « À l'aube des arcs-en-ciel » en collaboration avec Evelyne Pernel. Patricia Guillemin est également l'une des très actives chevilles ouvrières de l'association CEL, le Cercle des écrivains de l'Okirek, organisateur de déjà nombreuses manifestations autour du livre. À l'heure du thé, nous entraîne derrière le miroir, en un monde où les objets vivent de leur vie propre. L'improbable dialogue, gentiment suranné, entre les ustensiles se pensant indispensables à l'heure du thé, le ton très british de la conversation et l'apothéose fracassante qui nous renvoie sans ménagement dans les cordes de nos vanités font de cette nouvelle un véritable petit bijou et témoignent qu'à y bien regarder, l'on est bien peu de chose. Dans ce salon, aux tentures vieil or et murs de fleurs fanées que tapissent des portraits d'ancêtres moustaches recourbées ou chevelures enrubannées, l'ambiance rococo du mobilier suinte d'une mémoire fossile à nobles particules. Au centre, un canapé semble là d'accueillir la redondance d'une bourgeoisie accroché aux fleurons de son passé et les coups de griffe récurrents d'un chartreux faquin. Quand, tel un clandestin, le gentleman s'immisce dans ce décor désuet. Lord Edward qu'il est, il croit halluciné. S'approchant de la table basse encaustiquée, il surprend les confidences alambiquées d'un service à thé. Porcelaine d'une religieuse beauté qu'escorte une ménagère brillant de mille éclats. Prise au piège des mots qui se diffusent sur un plateau d'argent ciselé, le buste légèrement penché en avant, voici ce qu'il entend. Encore un de ces après-midi où cancans et colibés seront privilèges des rombières fardées à outrance, bougonne le sucrier.
Oh, quel ennui, surenchérit en bâillant le pot à lait.
Face à ces propos, la théière courroucée qui aurait certainement frôlé l'ébullition si du breuvage ambré elle eût été remplie, rétorque.
Messieurs, comment osez-vous faire preuve de tant d'ingratitude envers cette junte conservatrice qui, si elle ne résistait pas à l'appel de la modernité, aurait au fait de nous condamner à l'oisiveté derrière une vitrine. Imaginez un instant que Mrs. Wood, notre chère maîtresse de maison, succombe au charme vanté par Mrs. Collins et Lady Brenda de ces nouvelles matières plus robustes et au design contemporain sur lesquels elle ne cesse de s'extasier au point de nous qualifier d'insipide vaisselle avec nos roses du siècle passé. « Oh, moi, vous savez, dit le fataliste sucrier, je ne sers plus à grand-chose depuis que ces dames sont au régime. Elles refusent toute douceur. D'ailleurs, constatez comme ma pauvre pince à sucre se trouve percluse de rhumatisme, faute d'être articulée. Oh, il est vrai que je me sens si rouillée, confirme la dite pince, que parfois me vient la crainte qu'elles ne comblent leur frustration en impulsion boulimique, ce qui engendrerait une manipulation forcenée au point de briser net mon ressort qui, de sa belle vivacité, n'est hélas plus doté. Oh, moi, par contre, vous me verriez si ravi d'être ainsi chatouillé et délesté de ces glucides qui me confèrent une allure d'empoté, jubile rêveusement le sucrier.
Empoté ? Empoté, dites-vous ? Réplique le pot à lait subitement réveillé par ce qualificatif qu'il croit lui être attribué.
Précisons que la veille, Mrs. Wood avait omis de jeter le fond de lait restant, ce qui générait des aigreurs chez notre ami, d'où sa tumeur grincheuse.
Donc, apostrophant le sucrier avec fureur, je me permets de vous rappeler que vous et moi avons la charge de saveurs jalousées par bien des peuples. Au fond, je pense que c'est une mode, comme l'arrivée massive d'un certain fruit exotique dont les fines tranches ensoleillées faisaient se pâmer les belles en quête d'exotisme. Trop riche en matière grasse, je devenais une affreuse menace pour leur ligne. Fort heureusement, un scientifique a eu la géniale idée d'écrémer ce velours lacté dont j'aime me gargariser jusqu'à plus soif. Sauf lorsqu'il fermente. Et voici qu'aujourd'hui, j'ai réussi à supplanter cette lubie acidulée, contorsionnant l'orée des bouches de ces dames au goût. Mais il n'a pas le temps d'achever sa phrase que les petites cuillères étincelantes de malice m'inondent ton cœur. Il n'empêche que depuis l'arrivée de ce fruit, nous savons briller en société. Et les caresses subtilement parfumées que nous prodigue Mrs. Wood ne sont pas pour nous déplaire. Nous échappons ainsi aux vapeurs incommodantes de cette substance opaque auxquelles nous étions assujettis depuis tant de décennies. Poisseux Mia. Ah oui, s'extasie la grande soucoupe. Moi aussi, j'aime sentir cette fraîcheur citronnée que Mrs. Wood dispose au cœur de mes roses entrelacées. Tous vos beaux discours sont bien futiles face à ma crainte d'être éliminé du plateau de convivialité. Coupe d'une voix larmoyante la quatrième tasse.
Mais pourquoi donc ? Pourquoi donc, cher ami ? Oh, soyez persuadés que nul motif ne saurait nous désolidariser, s'insurge la théière en parfaite médiatrice. Et la pauvrette, d'un ton éploré, dévoile à l'assemblée l'objet de son tourment, une horrible fêlure. Oh, au dernier tea time, Lady Brenda, irritée par un malencontreux coup de ciseau du coiffeur, m'a reposé avec une telle brutalité que mon pied si délicat s'en est fêlé. Tous se rapprochent pour constater qu'une infime parcelle de dorure laisse place à la blancheur de la matière brute. Mais mais aussi infime soit-elle, une hôtesse, comme Mrs. Wood, soucieuse du moindre détail, ne tardera pas à remarquer ce défaut. Et alors...
Ah, et alors, adieu à cette tendre complicité qui nous unit, pleurniche-t-elle, imitée par sa soucoupe, subitement consciente que le même sort lui sera réservé.
My God! Mais quelle horreur! S'épouvante la seconde tasse. Imaginez que Mrs. Wood se rende compte d'une telle infirmité et nous sombrerions tous en disgrâce. Oh, Mrs. Wood n'aura jamais l'impudence de servir le thé dans un service incomplet. Une pièce manquante, et c'est l'échéance funeste assurée.
Allons, mesdames, allons, ne cédons pas à la panique. Montrez, mes corps, que j'ai eu l'ampleur du mal, intervient le sucrier, d'orgueil soudain revigoré.
Déjà rosie par sa nature fleurie, la tasse, confuse, sent les pigments foncés d'émotion lorsque le sucrier l'examine avec doigté.
Je vous vois bien l'âne extropié, ma chère. Avez-vous eu au moins le réflexe de garder près de vous l'éclat de cette dorure ? Et tout le service aux aguets retient son souffle, jusqu'à ce que la victime bredouille qu'elle n'y avait pas songé.
Meredith, avec son zèle coutumier, a desservi la table du salon avant même que je ne mesure l'étendue de la catastrophe. Le choc a été si violent qu'avant tout, je tentais de reprendre mes esprits.
Oh, quelle petite sotte ! Persifle le potalé que cette histoire rendait encore plus nauséeux.
S'il vous plaît, un peu d'indulgence vis-à-vis de cette petite, riposte le sucrier en conciliateur improvisé. Puis, se gonflant de vanité, prêt à s'en faire péter les sens, il étale ses connaissances en matière de restauration à une assemblée déconfite.
Voyez-vous, mesdemoiselles, pendant que vous rêvassiez et vous gargarisiez de verbiage, moi, j'observais. J'observais les gestes et méthodes propres à l'homme de haute société, anticipant sans doute qu'un jour, cela servirait notre inestimable condition. Et ce grand jour est arrivé. Et quelle est la nature de cet enseignement loué avec tant d'emphase, monsieur ? Grince la théière vexée. Oh, le sucrier, loin d'être désarçonné, explique que leur fin liseré d'or était appliqué par des maîtres porcelainiers et que cet art transmis de génération en génération, etc., etc., etc.
À l'issue de cette éloquente démonstration de savoir, la théière ne manque pas d'ironiser.
Grand bien nous fasse que toute cette science, mais qu'en est-il concrètement pour le cas qui nous intéresse ?
Bah oui, reprennent en cœur les autres pièces du service.
Racle le fond du sucrier.
Évidemment, ce ne sera pas chose aisée que de restaurer le pied de la demoiselle. Néanmoins, j'ai remarqué un jour où M. Wood m'avait emmené dans son bureau pour adoucir son café qu'il disposait de fioles étiquetées « encre ». J'ai vu qu'au contact d'une plume imbibée de cette substance, le papier s'en colorait. Aussi, je suis persuadé qu'il s'en trouvera bien une d'une teinte comparable à la dorure qu'emploient les hommes du métier. Les tasses valides s'excitent déjà à l'idée d'une mission de secours, à vivre hors du plateau commun. Mais la théière met vite le holà à cette puérile effervescence. Et pour trancher dans le vif des illusions, le sucrier désigne une petite cuillère et le pot à lait pour cette périlleuse expédition. Si la cuillère à thé est honorée par ce choix, le pot à lait, lui, encore sujet à régurgitation, n'a nulle envie de s'activer. Pour tromper les mots, il cherche refuge dans la méditation tendance bouddhiste, mais surtout boudeur, le sieur. Cependant, face à la mine chagrine de la tasse endommagée, il accepte dans un borborygme exagéré. La théière et sa cour reprennent place sur le plateau avant que le sucrier ne donne le fameux signal à la cuillère étincelante de bravoure et au pot à lait, augurant finalement un retour en héros lorsque Lord Edward, jusqu'ici silencieux, s'approche très, très près, trop près même, afin de mettre en garde tout ce petit monde face à de telles manigances. Hélas, poursuivi par sa maladresse légendaire, il renverse le plateau chargé de ses occupants. À l'écho du fracas, Mrs. Wood accourt, portant d'abord les yeux à terre parmi les fragments de porcelaine, pour ensuite relever son visage qui vire du blême au cramoisi. Elle ne peut cacher sa gêne devant l'amant penaud qui, lui, écarlate de confusion, ne sait comment s'excuser. Effrayée à l'idée qu'on puisse les surprendre, elle le prie à temps de se cacher derrière les lourdes tentures, tandis que Meredith, alertée par le vacarme, surgit la mine affolée. Sur un ton qui se veut péremptoire, elle ordonne : « Meredith, débarrassez-moi de ces débris et apportez-moi vite le splendide service à thé que m'a rapporté Lady Brenda de son dernier voyage en France. Allons, allons, dépêchez-vous avant que ces dames n'arrivent !»
Épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Fine porcelaine des meilleurs salons de la haute société, rose ou êtres humains de toutes conditions, on est en effet bien peu de choses. Comme le chantait à l'instant et si joliment Françoise Hardy dans cette chanson de Cécile Collier, créée en 1964. Avec quelques retards sur le calendrier de novembre, c'est un texte très court et plutôt drôle, tout simplement intitulé Halloween, que je vous propose à présent. Il est extrait d'un petit recueil de nouvelles, Chroniques à l'armoricaine, dû à la plume de Malika Boulet, dont nous retrouverons quelques textes savoureux, je vous le promets, lors d'une prochaine émission. Malika Boulet est romancière. Après deux premiers romans qui plongent dans le futur proche et interrogent l'intelligence artificielle, elle a publié deux thrillers, dont en 2018, Le poids de l'absence, aux éditions Ramsay. Son prochain roman est en relecture chez ce même éditeur. Correspondante de presse pour le journal Ouest-France, puis chroniqueuse sur le web, elle fut aussi à l'initiative du salon Quai des Plumes à Saint-Quay-Portrieux. Vous pouvez aussi la retrouver dans le podcast de l'émission Page Blanche du 27 novembre 2015 au micro de Bretagne 5. Écoutons Halloween. Elle ouvrit la porte. Comme chaque année, à cette époque, une ribambelle de petits monstres vociférants s'agglutinait sur son perron. Cris attendrissants chez les plus petits, drôles chez certains, horribles et ridicules chez d'autres. D'ailleurs, ce soir-là, le plus grand de la troupe avait un air sinistre, très réussi, qui aurait fait froid dans le dos sans son aréopage de maternelle. «
Des bonbons ou la vie » hurlait-il.
« Des bonbons ou la mort » surenchérit le plus grand. «
Elle n'aimait guère les enfants. D'année en année, elle affinait son stratagème pour ce rendez-vous. Elle savait où trouver les friandises les plus collantes, les plus pâteuses, voire les plus âcres. Et elle ne se gênait pas pour y ajouter quelques sucreries trafiquées au poivre, au sel ou au piment. Heureusement pour elle, les générations se renouvelaient rapidement et lui permettaient de savourer ce petit moment de plaisir sadique qu'elle attendait avec de plus en plus d'impatience au fil du temps. Sans doute l'âge et la solitude la rendaient-elle plus mauvaise. Cette année, elle avait décidé de ne gratifier qu'un enfant sur deux. Ces petits égoïstes ne manqueraient pas de se quereller et, avec un peu de chance, lui offriraient une belle bataille où des amitiés seraient à jamais écornées. Mais le grand là, avec ses yeux noirs, il lui faudrait sans doute plus. L'humilier devant les plus petits lui parut être une bonne idée. Et toi l'ado, que fais-tu au milieu des enfants? T'as grandi trop vite? Lança-t-elle moqueuse. Il s'avança vers elle. Un silence effroyable s'installa. Il se figea et lui souffla. « Je suis venu pour toi. » Un frisson la parcourut. Elle fit quelques pas à reculons pour regagner son domicile. Il la suivit. Elle se ressaisit aussitôt. Pas question de perdre la face devant ce petit morveux. Pointant le doigt vers son visage, elle lui cracha furieusement. « Et qu'est-ce que tu caches derrière ce masque ?» Les rires d'enfant reprirent doucement, mais elle eut la désagréable impression qu'il ne s'agissait plus des mêmes intonations. Les rires s'étaient mués en ricanements sarcastiques, certains gnomes éclatant même d'un rire cruel. Elle aurait pu qualifier ces rires de sataniques. Mais elle repoussa cette pensée comme pour s'en protéger. Tous les visages étaient tournés vers elle, attendant que tombe le masque. Tout ce cinéma avait assez duré. Ces petits mal élevés n'allaient pas lui gâcher sa fête. La méchante, c'était elle. Elle tendit la main, arracha le masque. La créature sans âge la fixait maintenant intensément. Sa figure dévastée ne ressemblait à aucune espèce qui aurait pu rassurer son cerveau. Elle entendit la voix lui dire « Tu nous as appelés ? tes pensées négatives sont venues jusqu'à nous. Halloween est le seul moment où nous pouvons venir chercher vos âmes. Va et mets fin à tes jours. » Son corps obéit. Une petite voix hurlait au fond de son cœur. « C'était pour rire ! C'était pour rire !» Ils disent tous ça, commenta la chose. Elle quitta la pièce sans se retourner.
Des ventres funéraires, accouche de revenants aux yeux pâles et meurtris. Parmi les eaux broyées des squelettes en poussière, couronnés de lauriers desséchés et flétris. De généreux harpies aux aboiements lubriques offrent leur cellulite et leur nichon blafard à de quelconques fouines en robes synthétiques, fendues jusqu'au néon de leur croupe aux vipères. Graphique d'un trip au bord du vide, où le danseur en croix sodomise un lépreux. Devant les caméras, ça tourne à l'air fétide. De la pensée commune aux troubles nauséeux. La nuit de la Saint-Main,
Sainte Citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines.
La nuit de la Saint-Main,
gueule de pine Halloween,
Jean-Christ et Palotin. Je vois des cavaliers qui te sucrent tes tours sur l'échiquier barbare au style Mahomet étant. Et puis ta reine en garde et tes pions qui débourrent en cramant la mosquée où je fume en afghan. Projection primitive d'un logiciel sans fin, j'attends la fleur féline aux yeux mouillés de chrome, sous le plumage poisseux des regards clandestins, rivé sur le cockpit de mon vaisseau fantôme. La nuit de la Saint-Main,
Sainte Citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines.
La nuit de la Saint-Main,
gueule de pine Halloween,
Jean-Christ et Palotin,
sulfateuse endocrine.
La vidéo mentale projette sur mes capteurs les magots populaires hystériques et banales d'un égout surpeuplé de monstres tapageurs en quête d'une orgie sur l'écran terminal. La Saint-Main,
Sainte Citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines.
La nuit de la Saint-Main,
gueule de pine Halloween,
Jean-Christ et Palotin, sulfateuse endocrine. La nuit de la Saint-Main,
Sainte Citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines.
La nuit de la Saint-Main,
gueule de pine Halloween, Jean-Christ et Palotin, sulfateuse endocrine.
Thank you.
Ce soir, dans La Plume est à vous, nous avons entendu une nouvelle de Patricia Guillemin, À l'heure du thé, suivie de Halloween par Malika Boulet. Halloween qui, depuis son introduction très commerciale en Europe dans les années 80-90, a malheureusement occulté quelque peu cette fête celte qu'est la Samhain, passage mythique entre saison sombre, saison claire, transition et ouverture vers l'autre monde, une fête qui plonge ses racines dans la mythologie irlandaise, bien loin d'un folklore de pacotille que l'on a vu, hélas, se développer à grand renfort de marketing. Et c'est avec ce titre de Hubert Félix Thiéphen que nous venons d'entendre « Chanson pour la Samhain » que nous nous quittons ce soir. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 21h, comme d'habitude, dans La Plume est à vous, si les forces occultes ne nous saisissent pas au sortir des studios. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous transmettre vos textes, que vous soyez auteurs confirmés ou occasionnels, à l'adresse suivante plume@bretagne5.fr, en y joignant vos coordonnées ainsi qu'une courte biographie. Merci infiniment à l'ami Frédéric Guyon qui a réalisé cette émission avec talent et sourire. Passez, chères auditrices et chers auditeurs, une excellente semaine. À dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.